Eh bien, bonjour, frères et sœurs. Je vous souhaite à vous tous un excellent sabbat. À la fin du mois de mai, ou vers la fin du mois de mai, mon épouse et moi allons passer une dizaine de jours en Inde. Ce seront des vacances, mais nous allons passer quelques jours pendant cette période à travailler également avec Monsieur Becker, le pasteur de toute cette région. Nous allons rendre visite à deux petits groupes de membres de l'Église dans ce pays. J'y avais été déjà une fois auparavant, il y a une quinzaine d'années, mais ce sera la première fois pour mon épouse. Quand j'y étais, comme j'ai dit, il y a une quinzaine d'années, il y avait 1 milliard de personnes qui vivaient en Inde. Aujourd'hui, il y a 1,3 qui sont résidents en Inde. Nous verrons certainement, comme j'ai vu la dernière fois, à quel point le pays est surpeuplé. C'est une société bien différente des sociétés occidentales. Et ils ont des religions différentes aussi. Il y a très peu de chrétiens comparés à d'autres pays. Et une chose que j'ai vue là, c'est que ces différentes religions ont des conceptions différentes du temps. L'hindouisme et le bouddhisme, qui ont tous deux commencé en Inde, par exemple, voient le temps comme étant cyclique, circulaire, on peut dire. Le monde physique et le temps passent par des cycles extrêmement longs, des cycles de naissance, de renaissance, éternellement et sans fin. Mais le christianisme révélé dans la Bible présente le temps comme étant linéaire. Il y a eu un début à l'univers et à la vie physique, et il y aura une fin également. Beaucoup de gens aujourd'hui se moquent de l'idée qu'il puisse avoir une fin du temps ou une fin du monde. Ce n'est que la superstition religieuse, pensent-ils. Mais la Bible est bien claire sur ce point. Le Messie, Jésus-Christ, l'a dit lui-même. Il a dit qu'il y aura une fin de ce monde, précédée par une période de temps extrêmement troublée, qui représentera des signes précurseurs de cette fin. Regardons par exemple ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24, verset 1. Matthieu chapitre 24, verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il n'a pas dit, mais non, il n'y aura pas une fin du monde. Non, il y aura la fin du monde. Il y aura une fin à cet âge, à cette civilisation actuelle, à ce monde. Il expliquait dans les versets suivants, dans Matthieu chapitre 24, des signes qui aideraient ses disciples à identifier le moment quand on va s'approcher de plus en plus de ce temps de la fin. Et il a dit finalement dans Matthieu chapitre 28, verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y aura bien une fin de ce monde présent. Il y a des éléments, des événements qui se passent autour de nous, la confusion religieuse, les guerres et les bruits de guerre, les famines, les maladies, d'autres catastrophes naturelles, qui faisaient partie des signes que Jésus a donnés dans Matthieu 24, des signes annonciatrices du retour de Jésus-Christ. Et la Bible nous met en garde contre certains autres événements qui doivent arriver juste avant le temps de la fin, avant son retour sur terre. Et ces choses dont je parle ne sont pas des événements à l'extérieur seulement, des guerres et des bruits de guerre, ce genre de choses-là, mais c'est une évolution à l'intérieur du cœur et de l'esprit humain. La façon de penser des êtres humains va changer de plus nous nous rapprochons de ce temps de la fin. Il y aura, et nous le voyons autour de nous actuellement, une révolution dans les cœurs, les attitudes et les mœurs des gens. Et tout cela nous est annoncé en grand détail dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, nous avons une prophétie ici très détaillée concernant la manière de penser les êtres humains au moment du temps de la fin. 2 Timothée chapitre 3, verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles, non pas seulement à cause d'événements extérieurs, des guerres, des maladies, des tremblements de terre, etc., mais à cause de ce qui va se passer entre les oreilles des gens, dans leur esprit, leur façon de penser, de voir le monde, leur façon de se traiter les uns les autres. Et Paul Dunn y dresse toute une liste après cette introduction. Je voudrais, vous allez suivre dans la version de la Bible que vous avez devant vous, mais je vais prendre cette fois-ci exceptionnellement la version de la parole vivante, qui n'est pas une traduction exacte, mais c'est très coloré, et c'est pas inutile de temps en temps de le lire quand on garde à l'esprit que ce n'est pas une traduction très très fidèle, c'est pensée à pensée plutôt que mot à mot. Et ça c'est, pour une étude doctrinale, c'est pas très indiqué, mais pour saisir le parfum du temps, ça peut nous aider. Voici donc 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5, dans la version de la parole vivante. « Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni respect pour ce qui est sacré. Ni affection, sans cœur et sans foi. Ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Cruels, effrontés et brutaux, ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien et seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences. Aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion, et pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ceux qui ont fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là. Ça, c'est ce que nous lisons dans les premiers quelques versets de 2 Timothée, chapitre 3. Et si nous avançons un peu plus loin, verset 13, nous lisons encore davantage. « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Le monde va s'égarer. Les maîtres à penser s'égarent. Et ils vont égarer d'autres personnes également. Et nous voyons cela se passer dans beaucoup de régions dans le monde, et de différentes façons. Sous les dictatures que nous voyons dans certains pays, c'est peut-être plus facile à voir. Mais même dans les pays plus avancés technologiquement, eh bien là aussi, les maîtres à penser sont en train de s'induire en erreur. Ils induisent ceux qui les suivent en erreur également. Ce passage dit clairement qu'il y aura un changement, une dégradation, on pourrait dire, dans la façon de penser des gens. Assistons-nous à cela aujourd'hui? Je crois que c'est très clair pour nous qui nous basons sur la Bible, c'est très clair à voir. Il y a une montée de haine dans le monde, une montée de haine même à l'intérieur des mêmes pays. Les gens de gauche n'aiment pas les gens de droite. Les athées n'aiment pas les chrétiens, etc., etc. Et ça se passe avec des détails différents dans beaucoup de pays dans le monde. Beaucoup de pays dans le monde. C'est clair que oui. Les discours politiques deviennent violents, deviennent méchants, deviennent extrêmes. Les hommes et les femmes politiques se déchaînent les uns contre les autres parfois dans un langage carrément vulgaire, ce qui aurait choqué il n'y a pas si longtemps. La société elle-même devient vulgaire. On accepte des choses, comme j'ai dit, qui auraient choqué il y a seulement quelques décennies. Les valeurs d'antan, basées dans l'Occident sur la Bible, les valeurs comme l'honnêteté, une famille fondée sur un homme et une femme qui se marient, la fidélité conjugale, le respect envers l'autorité, tout cela se remplace rapidement par d'autres valeurs, entre guillemets, dites modernes. Et le sommet de toutes ces valeurs semblerait être aujourd'hui la tolérance. Maintenant, la tolérance dans certains domaines, c'est une bonne chose. La tolérance entre races, avoir un respect pour tous, ça c'est une bonne chose. Le respect de la liberté du culte, c'est une bonne chose. Et la tolérance dans ces domaines-là, la tolérance des uns des autres, une certaine politesse dans nos conversations, nos comportements, eh bien, ça c'est très bien. Mais quand la tolérance, on veut l'appliquer au comportement moral, là, il peut avoir un problème. Parce qu'on accepte ou on tolère des pratiques qui sont condamnables, finalement. La tolérance veut dire accepter que l'individu peut faire n'importe quoi pourvu qu'il ne fasse pas de mal aux autres. Ça semble être la définition la plus courante aujourd'hui. C'est ce qu'on va dire, il faut être tolérant des pratiques sexuelles. Et il faut être tolérant de penser à propos du genre qu'on aurait vu comme un non-sens il n'y a pas si longtemps. Il y a des différences culturelles, n'est-ce pas, parfois religieuses aussi, entre gens, mais on applique cette tolérance surtout et avant tout à des questions de sexualité aujourd'hui. Les pratiques qui auraient choqué nos grands-parents maintenant, qu'ils auraient considéré comme inacceptables et aberrantes, eh bien aujourd'hui, c'est non seulement accepté, mais approuvé. Il y a l'approbation des maîtres à penser. La sexualité en dehors du mariage, avant d'être marié ou de tromper son conjoint, c'est légal. La pornographie en tout genre, les relations homosexuelles, les gens passent. Tout cela est acceptable aujourd'hui. Et on sait qu'on n'est pas supposé ouvrir la bouche pour dire le contraire. Si on élève la voix pour dire le contraire, on va payer un prix, n'est-ce pas? Dans les troubles de 1968 en France, il y avait beaucoup de soulèvements estudiantins et il y avait un slogan qui a marqué les mémoires plus que les autres, je crois. Il était peint sur bien des murs. Il est interdit d'interdire. Et cela plaisait aux manifestants. En fait, quand on réfléchit à la chose, on voit qu'il y a une contradiction interne à cette phrase. Et en fait, ça souligne le fait que dans ces nouveaux mœurs, comme on dit, ou cette nouvelle liberté, cette nouvelle tolérance qu'on veut imposer, eh bien, il y a des contradictions internes également qui rendent le tout incapable de fonctionner. Évidemment, si c'est interdit d'interdire, eh bien, cette phrase en elle-même est interdite. On ne peut pas le prononcer puisque cette phrase interdit quelque chose. C'est un non-sens. Interdit d'interdire. Et en fait, la tolérance aujourd'hui, le plus souvent, veut dire cela. Rien doit être interdit. Sauf le fait de dire qu'on peut interdire quelque chose ou qu'on peut condamner certains comportements. Ça, non. Faire n'importe quoi, oui. Dire n'importe quoi, non. Il y a certaines phrases qu'il ne faut surtout pas prononcer. Et il y a aussi des pensées qu'il ne faut pas avoir, du moins pas à haute voix. Dire le contraire de cette mentalité moderne est comparé à la haine. Si vous pensez comme ça, vous êtes rempli de haine. Si vous condamnez ce que fait une personne, vous haïssez la personne. Aucun acte ne peut être condamné, sauf le fait de condamner quelque chose. Je ne parle pas ici d'action, je ne parle pas de violence contre qui que ce soit. Je parle plutôt du simple fait de penser et de dire que certains comportements sont condamnés. Eh bien, ces paroles-là sont comparées à la haine. On déclare que ces pensées ou ces paroles sont de la haine. Il y a des lois maintenant dans plusieurs pays de l'Occident, au Canada, en Europe, aux États-Unis, ça commence aussi, qui le rendent illégal simplement de dire que certains comportements sexuels ne sont pas bons ou normaux. Le simple fait de le dire, eh bien, vous pouvez être condamné dans un cours de justice dans certains pays. Il y a même des projets de loi dans certains pays maintenant qui obligent les autres à utiliser l'appellation choisie par chaque individu. Si un homme veut être appelé comme une femme, vous êtes obligé de le dire. Si vous insistez à dire lui ou parler au masculin, eh bien, vous pouvez être condamné dans un cours de justice. C'est un discours de haine d'empêcher cette personne d'être traitée comme bon lui semble. Encore une fois, si on avait vu cela il y a même 10 ans, on aurait dit, mais c'est pas possible qu'on va arriver là avec une telle vitesse où c'est accepté par de plus en plus de gens aujourd'hui. Ce genre de loi voit le jour maintenant dans plusieurs pays. On peut être condamné. Il y a eu un universitaire, professeur, qui était condamné par son université parce qu'il refusait. Il disait, vous n'avez pas le droit de me dicter ce que je dois dire. Et il refusait. Et on l'a condamné, la classe politique, la classe des professeurs, etc. Ce n'est même pas assez de ne pas condamner certains comportements maintenant. On se sent obligé de tout affirmer et d'appuyer. On peut pas simplement rester silencieux. Dans certains cas, on est obligé de dire ce que l'on ne croit pas, par force de loi ou simplement par force de la société. Mon épouse a été professeure de français aux États-Unis. Elle a dû, dans une école publique, un lycée public, elle a dû suivre un programme pour laver les cerveaux, en fait, des profs qui étaient là. Le titre de ce programme était « Honorer toutes les voix ». Et vous voyez ce que là où ils veulent aller, la voix, V-O-I-X, X. « Honorer toutes les voix ». Et ils ont expliqué que dans la société, il n'y a que 3 sortes de personnes quand il est question de comportement sexuel et de choix sexuel. Il y a 3 catégories. Et seulement 3. Il n'y en a pas une 4e, seulement 3. Il y a des victimes, il y a des oppresseurs et il y a des alliés. C'est tout. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de ceux qui aiment le pécheur sans aimer le péché. Non, non, non. Si vous pratiquez ces vies alternatives, eh bien, vous êtes victime automatiquement. Automatiquement, vous êtes victime. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes oppresseur. Et si vous ne voulez pas être oppresseur, vous ne pouvez pas rester neutre, il faut être allié. Ça, c'est ce que les maîtres à penser enseignent aux profs aux États-Unis. Et ce sont ces profs qui éduquent les enfants, les étudiants aux États-Unis. Et on pourrait trouver des exemples bien similaires presque partout en Europe et probablement dans d'autres pays également. Mais posons-nous une question. Est-ce vrai, tout ça? Est-ce exact? Devons-nous, en tant que chrétiens, accepter les comportements moraux, que tous les comportements moraux sont égaux? Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de meilleur ou de pire dans les comportements moraux. Toutes les modes de vie sont aussi acceptables les unes que les autres. Si quelqu'un a envie de tromper sa femme, c'est son choix. Il est libre. Ce n'est pas à nous de commenter ce comportement-là. En tant que chrétiens, devons-nous faire preuve de tolérance? Et si oui, quelle doit être la tolérance que nous pratiquons? Qu'en dit Dieu dans la Bible? C'est cela que je voudrais que nous cherchions à comprendre aujourd'hui, pendant le temps de ce sermon. Mais je vous avertis à l'avance, en abordant cette question, si nous voulons voir les choses à la manière biblique, ça va nécessiter que l'on prenne du recul par rapport à la société actuelle. On doit prendre du recul. Cela nécessite du courage, parce que ça va nous obliger de nager à contre-courant dans nos sociétés du XXIe siècle. De nos jours, certaines valeurs, ou certains veulent plutôt opposer la morale chrétienne, c'est-à-dire l'enseignement de la Bible, à cette idée de tolérance que nous venons de voir ensemble, parce que la Bible donne des valeurs absolues, qui ne changent pas, contraire aux valeurs, entre guillemets, de la tolérance qui accepte à peu près tout, sauf de ne pas accepter. Pour mieux comprendre la situation actuelle, il est bien de comprendre la vue du monde de la plupart des intellectuels aujourd'hui. Je cite Une analyse par Nancy Percy, qui est une prof de journalisme à l'université de Biola, aux États-Unis, dans un livre intitulé, et aussi dans un livre intitulé Persécution. Exposé de son analyse a été repris par l'auteur David Limbo dans son livre Persécution. J'ai trouvé ce livre fascinant, mais aussi difficile à lire, parce que c'est vrai. Et puis, nous sommes dans une situation grave et très avancée. D'après le professeur Percy, dans la société aujourd'hui, qui est basée sur les écrits de Francis Schaeffer, on divise la vérité en deux catégories. Les catégories faits et la catégorie valeurs. Deux registres différents comparés à deux étages dans un bâtiment. Au rez-de-chaussée, il y a les faits rationnels, vérifiables, et en haut, il y a la vérité des valeurs subjectives et personnelles. Mais c'est considéré comme des vérités quand même. En bas, c'est ce que l'on sait être vrai scientifiquement, objectivement, rationnellement. On peut le prouver par une expérience. Et en haut sont des valeurs dites subjective, la religion, la moralité, l'art, les humanités, qu'on a réduit à une expérience purement subjective et personnelle, les unes étant tout aussi bien que les autres. Pas de hiérarchie, pas de vraie vérité. Chacun peut décréter que ce qu'il croit est sa vérité personnelle et personne n'a le droit de dire que ce n'est pas vrai. C'est ça la vue actuelle et le fondement de nos sociétés, et le fondement de l'éducation des jeunes. Quand on va à l'école, c'est ça la vue du monde qu'on va inculquer. Et cela s'oppose à ce que dit la Bible. La Bible ne divise pas la vérité en deux étages, comme cela. La Bible présente la vérité comme un ensemble. La religion n'est pas seulement subjective, mais factuelle. Et objective. C'est la vérité. Cela ne relève pas simplement de l'opinion, de l'avis de quelqu'un, dont son avis est tout aussi valable que l'avis de quelqu'un d'autre. C'est important pour nous de comprendre la différence de ces points de vue. Donc, puisqu'on veut aujourd'hui mettre la religion dans le domaine subjectif, alors on ne peut pas accepter qu'il y ait des valeurs de comportement non négociables, comme le présente la Bible. Et c'est en partie pour cela qu'il y a une hostilité grandissante visant le christianisme traditionnel. Et ça devient de plus en plus palpable. On le voit partout. Si un homme politique parle ouvertement de ses valeurs chrétiennes, on va l'attaquer. On va lui faire promettre que ça ne va pas affecter sa façon de gouverner. Il doit permettre à tout le monde de vivre comme ils veulent. Il ne doit pas avoir de comportement meilleur que d'autres ou vu comme meilleur que d'autres. On ne va pas l'accepter. Et c'est en partie pour cela qu'il y a cette hostilité grandissante envers le christianisme biblique. Quand on s'attache à la Bible, évidemment, il y a une version du christianisme qui jette une grande partie de la Bible par la fenêtre et dit aux gens, vous pouvez vivre comme vous voulez. Dieu est amour, faites ce que vous voulez. Mais ça, ce n'est pas le message que nous avons dans la Bible. On présente le christianisme biblique aujourd'hui comme étant dangereux, intolérant, coupable de violence contre les innocents, parce que il juge, parce que la Bible juge. Pour comprendre ce que la Bible dit, à propos de la tolérance, prenons à peu près le seul verset biblique cité par les adeptes de tolérance absolue, moderne, aujourd'hui. Ils vont parfois citer Jésus en disant « Ne jugez point que vous ne soyez jugés », tiré de Matthieu chapitre 7, verset 1. Et puis ils vont fermer la Bible, si jamais ils l'ont ouverte, pour dire « Ben voilà, Jésus a dit, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Rien n'est interdit, Jésus a dit. Il n'aurait pas jugé ceux qui vivent en concubinage sans être mariés. » Ni une femme qui interrompt sa grossesse, comme dit cette expression, comme s'il n'y avait pas de bébé, impliqué dans tout le processus. Ni un couple qui vit ensemble du même sexe, etc. Non, Jésus n'aurait rien dit contre tout cela. Ne jugez point que vous ne soyez pas jugés. Mais si nous regardons le contexte, nous voyons clairement que ce n'est pas ce que Jésus avait à l'esprit. Le contexte, c'est le sermon dans la montagne, sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5. Allons-y, Matthieu chapitre 5. D'abord, au chapitre 5, Jésus explique la différence entre le christianisme qu'il était en train de prêcher maintenant et comment le christianisme différait au judaïsme. Il a dit plusieurs fois au chapitre 5, « Vous avez entendu dire, mais maintenant, moi, je vous dis. » Donc, il dit à ses disciples, « Ce qui était suffisant avant n'est plus suffisant. Pour être chrétien, il faut aller plus loin que ce qui était exigé dans l'Ancien Testament. » Ensuite, il a donné des exemples de comment les chrétiens doivent se comporter. Quel est le comportement chrétien? Il a dit de ne pas donner d'aumône pour être vu par autrui, chapitre 6, verset 1. La prière doit être en privé, pas pour être vue des autres, comme cela se pratique dans certaines églises aujourd'hui, beaucoup en Afrique par exemple, chapitre 6, verset 5. De ne pas jeûner pour être vu des autres, verset 16. Que les richesses physiques ne sont pas toujours une preuve que Dieu a béni quelqu'un. On ne peut pas jauger la spiritualité de quelqu'un par son compte bancaire, comme le pensaient les pharisiens souvent. Ça, c'est le verset 19. Il a prêché contre l'anxiété, qu'on peut être en paix même si on n'est pas riche, verset 25. Et puis, il en est venu à la question de juger les autres. Il a condamné une attitude critique de condamnation envers les autres, de juger leur valeur, les condamnant dans ce sens-là, la valeur de la personne. Chapitre 7, verset 1, « Ne jugez pas que vous ne soyez jugés. » Regardons maintenant, lisons Matthieu chapitre 7, verset 1. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et se retournent et ne vous déchirent. Ôtez la paille avant d'aider votre frère. Et quand on aide son frère, c'est vraiment pour le servir, c'est pas pour le critiquer, le condamner ou se hausser dans son opinion en abaissant quelqu'un d'autre. Ça, c'est ce que Jésus disait. Lisons le verset 24. Jean chapitre 7, verset 24. Jésus a dit ici, « Ne jugez pas selon la justice, selon l'apparence, pardon, mais jugez selon la justice. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Alors quand Jésus a dit « Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés », ça ne voulait pas dire une interdiction absolue du jugement. Il voulait dire que nous devons faire très attention de l'attitude que nous avons quand nous portons un jugement, quand nous distinguons entre ce qui est bien et ce qui est mal, et que nous ayons toujours un respect pour la personne, même si c'est un pécheur, même si nous jugeons que le péché est contraire à ce que dit la Bible. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Et puis au verset 1 du chapitre 8, Jean chapitre 8, verset 1, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu ? » Pour éprouver Jésus. Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. S'il disait oui, ils auraient une accusation sans pitié. S'il disait non, ah, il viole la loi. Il pensait, comme plusieurs fois dans le ministère de Jésus-Christ, l'avoir piégé. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Et on ne sait pas exactement ce qu'il a écrit. On a émis différentes théories. Peut-être qu'il a dit « Où est l'homme ?» parce que commettre l'adultère, ils font deux. Là, il y a la femme, mais où est l'homme? L'homme peut-être avait piégé la femme. Peut-être qu'il écrivait aussi certains des péchés de ceux qui étaient présents, puisqu'il les savait, il connaissait ses péchés. Il écrivait avec le doigt sur la terre. Comme ils continuaient à l'interroger, ils insistaient pour avoir une réponse, mais Jésus n'allait pas tomber dans leur piège. Il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Personnellement, j'aime bien la théorie qu'il écrivait certains de leurs péchés. Cela expliquerait pourquoi ils se sont comportés comme ils l'ont fait par la suite. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et fais tout ce que tu veux. » Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, « Va et ne pêche plus. » Jésus-Christ a condamné le péché. Pas la pécheresse, mais le péché, il a condamné. Et cela souligne pour nous le genre de jugement que nous, en tant que chrétiens, que nous devons porter aujourd'hui également. Aimer le pécheur, nous sommes tous pécheurs, mais haïr le péché. Haïr le péché. On dit parfois aujourd'hui que ce n'est pas possible, que tel ou tel, si vous dites que tel ou tel comportement n'est pas bon, que vous, automatiquement, vous haïssez les personnes qui pratiquent cette voie. Mais ce n'est pas vrai. Les parents le savent très bien. Ils ne sont pas d'accord avec tout ce que font leurs enfants. Ils vont même arrêter, ils vont peut-être discipliner les enfants pour empêcher qu'ils fassent certaines choses. Mais le fait qu'ils condamnent ce qu'ils font, ça ne veut pas dire qu'ils haïssent leurs enfants. Loin de là. Jésus a condamné le péché, mais il n'a pas haï la femme. Bien au contraire, il a aimé la femme. On n'aime pas ce que quelqu'un fait tout en aimant cette personne comme un enfant de Dieu. Que veut dire juger? Dans Jean chapitre 7, verset 24, nous avons lu « juger selon la justice ». Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot grec, c'est « krino », et ça veut dire « distinguer ». Décider mentalement ou judiciairement, par extension de juger devant un cours de justice, de condamner, de punir, de venger, de conclure, d'amer, de décréter, de déterminer, d'estimer, de juger, d'ordonner, de remettre en question, de prononcer une sentence ou simplement de penser. De penser, c'est ça, juger, c'est réfléchir pour arriver à une conclusion concernant le bien ou le mal dans une situation ou un tel ou tel comportement. La Bible souligne et précise que nous ne devons pas avoir une attitude hypercritique envers les frères et les sœurs dans la foi. Ça, c'est bien clair. L'apôtre Paul l'a souligné dans Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Ce genre de jugement-là, nous ne devons pas avoir. Romains chapitre 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Ça, c'est intéressant à considérer un instant. Ça veut dire que quand nous nous regardons les uns les autres dans l'Église en tant que chrétiens, nous ne devons pas simplement voir un frère ou une sœur ou une amie ou quelqu'un que nous côtoyons chaque sabbat ou lors de la fête des tabernacles. Quand nous regardons un confrère dans la foi, nous devons voir un serviteur de Dieu. Nous sommes tous serviteurs de Dieu, nous sommes appelés pour lui servir. Et nous devons traiter les serviteurs de Dieu que nous sommes avec respect. Nous ne devons pas avoir une attitude hypercritique. des jugements négatifs que nous pourrions avoir les uns envers les autres ne changent pas grand-chose dans la réalité, dans la situation. Ils ne changent rien, en fin de compte, sauf ils peuvent être décourageants, ils peuvent nuire à quelqu'un. Nos jugements négatifs, nos attitudes hypercritiques peuvent faire du mal à nous, parce que ce n'est pas sain de penser dans ces termes-là, ce n'est pas l'état d'esprit de Dieu. Et puis, ça peut blesser la personne qui est jugée par nos paroles dures, nos réactions dures. Ne pas juger son frère, ne pas essayer de déterminer comment il doit agir, prenons sur nous de corriger, regarder du bout du nez, etc. Ça, c'est le genre de jugement où il faut faire très, très attention. Il est clair que dans les cas de Matthieu 18, on doit aller vers son frère, lui souligner que quelque chose ne va pas, si ton frère a péché contre toi, Jésus a dit dans Matthieu 18. Mais ça, c'est dans un cas bien précis, et c'est dans le but d'aider, de gagner son frère. Et c'est rarement comme cela que les choses se passent dans le monde. Comment juger? Eh bien, il faut avoir une certaine perception du monde. Ça dépend de notre cœur, en fait, notre disposition vis-à-vis les uns des autres, basée sur notre expérience du monde, de la vie, nos expériences passées, nos rapports les uns avec les autres. Tout cela est imbriqué dans ce concept. Hébreux chapitre 5, verset 14. Ici, il y a une question de jugement. La nourriture spirituelle, sous-entendue, solide, est pour les hommes faits, les hommes mûrs, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ça, c'est le genre de jugement que nous devons pratiquer. Discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Savoir faire la différence. Faire ce jugement-là. Voilà le genre de distinction que non seulement nous pouvons faire, mais nous devons faire. La nourriture solide est pour les hommes faits qui peuvent faire cela. Cela montre une maturité spirituelle de pouvoir distinguer, discerner entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Nous ne devons pas nous décider, même dans l'esprit, de la valeur de quelqu'un. Cette personne est sans valeur, c'est un idiot, ça nous n'osons pas faire, Jésus l'a rendu très clair. Mais nous pouvons juger des comportements. Et pas toujours nécessaire de faire un commentaire là-dessus. Mais au moins, dans notre esprit, nous devons savoir distinguer entre ce qui est convenable devant Dieu et ce qui n'est pas convenable. Condamner le péché, mais pas le pécheur. Malheureusement, à notre époque, on nous dit qu'on ne devons faire ni l'un ni l'autre. On ne doit pas condamner le pécheur, mais on ne doit pas condamner le péché non plus. Condamner le péché équivaut à condamner le pécheur, alors que la Bible nous montre que c'est faux. Nous ne devons pas dire que le péché est bien, tout aussi bien qu'une autre voie de vie. Et nous devons être pleinement convaincus dans notre esprit de cela. Ésaïe chapitre 5, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 5. Verset 20. Ésaïe chapitre 5, verset 20. Ésaïe dit très clairement et avec beaucoup de force, « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Et cela se fait beaucoup, malheureusement, de nos jours. On appelle le mal bien et on appelle le bien mal. C'est le monde renversé, tombé sur sa tête. 1 Corinthiens chapitre 11, dans ce contexte aussi. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Si certains comportements ne sont pas changés, rectifiés, il y aura condamnation de la part de Dieu, en fin de compte. Mais si nous nous jugions nous-mêmes, nous devons avoir la conscience très sensible vis-à-vis de notre comportement, notre façon de nous comporter. Nous devons savoir immédiatement quand nous nous approchons de cette ligne entre ce qui est péché et ce qui n'est pas. Quand la colère monte ou quand nous nous laissons attirer par quelque chose qui n'est pas correct devant Dieu. On doit avoir la conscience très, très sensible à cela pour pouvoir échapper à ces tentations et à ces faiblesses. Romains chapitre 14 également. Romains chapitre 14 à propos de la tolérance et le discernement. Romains 14, verset 10. Romains chapitre 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Le mauvais jugement, la mauvaise sorte de jugement dont parle la Bible, c'est quand il y a un peu de mépris là-dedans également. Pas vraiment du respect, mais du mépris. Pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. » Nous ne devons pas nous juger, critiquer les uns les autres. Nous devons plutôt réfléchir à comment est-ce que je veux être complètement inoffensif et même une force positive dans la vie de mes frères et sœurs. Ça, c'est le genre de jugement que Dieu veut que nous portions. Jugeons notre propre conduite. Nous allons chacun rendre compte de ce que nous aurons fait. Soyons intolérants aux péchés qui pourraient se trouver chez nous. Alors à nous de considérer surtout notre propre conduite. Ne nous concentrer là plutôt que sur d'autres personnes. Non, tout n'est pas relatif. On ne peut pas diviser la vérité en domaines objectifs et subjectifs. Dieu jugera le monde et il sera intolérant de certains comportements. Il aime les pécheurs, il nous aime tous. Mais il déteste le péché, parce que le péché crée la souffrance, et Dieu ne veut pas que nous souffrions. Dieu va même obliger un changement de comportement. Les gens seront, tout le monde sera mis devant un choix obligatoire. Repentez-vous ou vous allez mourir. Ça sera la fin. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2. Verset 9. 2 Pierre, chapitre 2, verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement, ceux qui refusent de changer. Surtout ceux qui courent après la chair dans un tel désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. En fin de compte, ils méprisent l'autorité divine. Ils méprisent le droit de l'Éternel de nous expliquer comment vivre. Ils refusent, ils ne veulent pas, ils ne veulent faire qu'à leur tête. Et ces gens-là, nous lisons dans la suite, audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier des gloires. Ils parlent mal de choses qui sont en fait des choses saintes même. J'ai vu dans une revue pour hommes aux États-Unis ce dernier mois, il y avait une liste de livres qui étaient beaucoup trop estimés pour la valeur réelle. Et au milieu de la liste se situait la Bible. Et l'auteur disait, oh, c'est un livre ennuyeux, quelques parties intéressantes, mais la plupart c'est ennuyeux, puis c'est complètement inutile aujourd'hui. C'est dépassé complètement aujourd'hui. Il ne savait certainement pas qu'il était en train d'injurier une gloire, mais c'est ce qu'il était en train de faire. Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles du jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Jugeons ces comportements qui sont inacceptables. Les comportements, dans notre esprit, nous devons savoir faire la différence. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon, l'obscurité des ténèbres, leur service est réservé. Après des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si on devait écrire une description du monde moral de l'Occident aujourd'hui, je ne pense pas qu'on pourrait faire mieux. De plus en plus de gens suivent cette voie-là. On pourrait se poser la question, mais est-ce que ce n'était pas écrit pour notre 21e siècle? C'est une description très fine de ce qui se passe de nos jours. Mais un jour de jugement, va venir. Dieu va juger. Et tous les comportements ne sont pas égaux devant ses yeux. Regardons Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 18. Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Car ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Évidemment, ce n'est pas une chose qu'un chrétien peut faire. Nous ne pouvons pas approuver ces pratiques-là. Frères et sœurs, nous allons avoir un défi devant nous. Nous ne pouvons pas changer le monde. Nous devons, en tant qu'Église, proclamer aussi longtemps que nous le pouvons qu'il y a une meilleure façon de vivre, le mode de vie de Dieu. Mais nous ne pouvons pas changer le monde maintenant. Ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire, en revanche, c'est ne pas laisser le monde nous changer dans nos comportements, dans notre cœur, de ne pas laisser tomber nos valeurs, notre compréhension du bien et du mal, de la voix de Dieu qui nous est rendue si claire dans la Bible. Il y a le bien, il y a le mal. La Bible le dit, nous l'avons vu. Et la Bible nous explique la différence également. Revenons dans Matthieu 24, lire quelques versets là. Matthieu 24. Verset 9. Matthieu chapitre 24, verset 9. Encore une fois, dans le contexte de ce qui va arriver juste avant le retour de Jésus-Christ. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il devient plus facile à comprendre comment cela pourrait arriver dans le contexte de ce que nous voyons autour de nous aujourd'hui. Alors aussi, plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour de plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Voilà en partie notre mission, c'est de tenir bon, de tenir ferme au milieu d'un monde qui va devenir de plus en plus immoral et qui le fait sous nos yeux maintenant. Ça, c'est une partie de notre mission. Matthieu 24, toujours verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Nous ne savons pas quand ça va venir. Nous ne savons pas, mais nous devons être prêts à tout moment et ne jamais baisser les bras sous l'assaut spirituel que nous subissons. Nous vivons dans un monde où la température morale monte ou baisse selon la façon de voir les choses. Parfois, nous nous rendons compte de ces changements néfastes et parfois, ça se passe tout doucement et peut-être que nous ne voyons pas. Nous pouvons ne pas voir ce qui se passe. Chaque génération nouvelle ne se rend pas vraiment compte de ce qui s'est passé avant leur temps. Ils peuvent penser que leur époque, c'est la norme. Alors que quand on peut comparer avec quelques décennies auparavant, là, on voit beaucoup plus clairement le changement. Apocalypse chapitre 18 contient un conseil pour le peuple de Dieu dans le contexte de toutes ces choses qui doivent arriver au temps de la fin de ce monde, de cet âge. Apocalypse 18, verset 1. Verset 4 plutôt. « J'entendis du ciel une autre voix, moi qui disais, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés, en parlant de Babylone, ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et du deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu, car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Dieu va juger. Dieu est intolérant du péché. Il est miséricordieux pour les pécheurs qui se repentent et qui changent, mais il est intolérant au péché. Revenons dans Matthieu 24 une dernière fois. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Il y aura un petit groupe d'élus qui va tenir bon jusqu'à la fin. Il faut qu'il y ait un groupe de fidèles qui persiste dans la bonne voie, qui résiste aux tentations de partir comme tout le monde, de suivre le courant. Il en va de la survie de l'humanité. Nous voulons être de ce nombre, frères et sœurs, qui jouent un rôle très important dans le plan de Dieu. Un dernier passage dans Luc chapitre 12, Luc chapitre 12, verset 32. Luc chapitre 12, verset 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera ton cœur. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Nous devons être sur nos gardes toujours. Nous devons vivre chaque jour comme si ce jour pourrait être notre dernier, comme si Jésus-Christ pourrait venir ce soir, ou comme si on pourrait avoir un accident et ne pas survivre jusqu'au lendemain. Personne d'entre nous ne sait combien de temps nous allons vivre. Alors nous devons être toujours prêts et ne pas nous laisser emporter, comme j'ai dit, par le courant du monde. Alors, tolérance? Oui, tolérance chrétienne pour les erreurs et les faiblesses humaines. Tolérance pour l'ignorance des gens. Amour pour le pécheur. Mais quant au péché, soyons intolérants.